Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, quel message François Hollande doit-il adresser au monde ? La France est en guerre, ce sont les tout premiers mots prononcés par François Hollande en milieu d'après-midi devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles. Moment solennel pour un discours de fermeté tant sur le plan des mesures intérieures que le chef de l'État entend mettre en œuvre que par rapport à la réponse militaire que la France va apporter. Les bombardements aériens d'hier soir sur la ville syrienne de Raqqa ne sont que le début d'une offensive appelée à s'intensifier. Alors quel rôle la France est-elle prête à jouer désormais dans cette offensive qui engage par ailleurs de très nombreux pays ? Un rôle central à en juger par la tonalité du discours de cet après-midi. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la France continue à montrer le chemin, a encore déclaré François Hollande. Nous devons continuer à influencer le monde. Alors justement, la France a-t-elle les moyens et la légitimité suffisante pour assumer une forme de leadership dans la lutte contre le terrorisme ? Et quel message François Hollande doit-il adresser au monde ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Nicolas Dungan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller pour le think tank Atlantic Council, qui est un think tank qui est basé à Washington. Vous êtes par ailleurs chercheur à l'IRIS, où vous travaillez sur la relation transatlantique et vous préparez un livre qui s'intitule « Why France Matters », pourquoi la France compte, pourquoi la France compte dans le monde. C'est ce que vous allez notamment nous dire ce soir. Pour discuter avec vous, Marc Semo, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Libération, vous êtes rédacteur en chef du service Monde et on vous retrouve assez régulièrement dans l'émission de Florian Delorme Culture Monde, en particulier le vendredi. Et puis alors, quelqu'un qu'on retrouve encore plus régulièrement sur cette antenne, c'est Thierry Garcin. Bonsoir Thierry.
Et bonsoir Hervé.
Producteur des Enjeux Internationaux tous les jours à 6h50 sur France Culture, aux éditions Economica. Ce n'est pas votre dernier ouvrage, mais c'est peut-être celui qui colle le plus avec ce dont on va discuter ce soir, les grandes questions internationales. Alors avec vous, je voudrais démarrer pour sur le discours qu'a tenu François Hollande cet après-midi, qui suit d'ailleurs un certain nombre d'autres initiatives, une déclaration télévisée très vite après les attaques terroristes, un déplacement sur les lieux du drame devant le Bataclan, puis cette décision de lancer des frappes militaires sur la ville de Raqqa. Mais donc cette intervention devant le Congrès cet après-midi que vous avez suivi, Nicolas Dungan, est-ce que vous avez vu un François Hollande s'exprimer en tant que chef d'État ?
D'abord, on a vu un François Hollande s'exprimer d'une façon beaucoup plus vigoureuse et moins hésitante qu'il peut le faire parfois. Il s'adressait aux parlementaires et je dois dire que mon impression était qu'il s'adressait davantage aux parlementaires qu'à la nation et que par conséquent, son discours était à mi-chemin entre celui d'un chef d'État et celui d'un chef de gouvernement.
Parce que très technique,
parce que porté sur, il parlait aux législateurs, et c'était très porté sur le législatif. Il y a eu quelques moments forts. Par exemple, le fait qu'il faille une grande et unique coalition contre Daesh, ça c'est un thème qu'on peut peut-être explorer parce que ça indique une visée de politique étrangère. Mais beaucoup de... Et nous sommes en guerre, la France est en guerre. D'un côté la rhétorique et puis la substance était plutôt moins vigoureuse.
Encore d'un mot, est-ce que ça veut dire que vous attendiez peut-être davantage un discours de type churchillien, par exemple, avec davantage d'emphase ?
Pas nécessairement churchillien, mais je pense que à un moment donné, on attend de la France une réaction universelle. Hollande a dit « La France parle à tous ». Et si l'Opéra de Sydney, si l'Hôtel de Ville de San Francisco et tant d'autres monuments, il y a eu tant d'autres expressions de sympathie et de soutien, ce n'est pas seulement parce qu'on aime bien la France, mais aussi parce qu'on attend quelque chose d'elle.
Alors on va voir tout de suite si nos deux autres invités ont entendu le même discours, en tout cas la même façon de prononcer ce discours. Marc Semo ?
Oui, François Hollande a raison quand il dit que la France parle à tous. Et on l'avait vu d'abord, il y a en janvier, lors du carnage à Charlie et à l'hypercachère. Il y avait une solidarité internationale sans précédent. Une manifestation à Paris avec une centaine de chefs d'État ou de gouvernement, c'était du sans précédent. Ce qui est frappant là, c'est qu'effectivement c'est un discours dans un genre dans lequel excelle le président François Hollande. Celui de chef de guerre, chef des armées aussi. On l'avait vu au moment du Mali, on l'avait vu dans d'autres occasions. Ce sont des moments où il est excellent. Ensuite, il y a eu quand même une accentuation. C'est-à-dire, à chaud, il avait parlé d'un acte de guerre voulu par des terroristes. Là, il dit « la France est en guerre ».
Et puis ce sont vraiment ses premiers mots.
Voilà, c'est une nuance, mais qui est une nuance importante. Dire que la France est en guerre, en partie c'est une réalité, de fait la France est en guerre, ensuite ce n'est pas neutre de le dire. Et on peut se demander, malgré la gravité de ce qui s'est passé, s'il n'y a pas une surréaction en partie, notamment au niveau législatif avec la proclamation de l'état d'urgence, et le fait que l'on va le prolonger pour 3 mois, par rapport à ce qui s'est passé. Et si cette surréaction n'a pas non plus, ce qui serait tout à fait légitime, des arrière-pensées électorales. On est à la veille des régionales, la droite est montée sur ses grands chevaux dénonçant le laxisme, etc. Le Front National est en embuscade, donc il serait tout à fait légitime de se montrer en homme ferme, capable de tenir la barre de la nation.
D'autant d'ailleurs, Marc Sémo, que proposer une révision constitutionnelle qui serait donc forcément votée par l'ensemble des parlementaires, par les 2/3 du Congrès, ça peut être aussi une façon, effectivement, d'un point de vue de politique intérieure, d'imposer finalement cette union nationale qui, semble-t-il, n'est pas totalement au rendez-vous pour l'instant.
Absolument. Dire que nous sommes en guerre, c'est implicitement, et je vais finir là-dessus, l'Union nationale. Mais l'état d'urgence, c'est quand même quelque chose de très très lourd. C'est-à-dire, on peut faire des perquisitions sans aucun contrôle judiciaire, on peut assigner des gens à résidence sans aucun contrôle judiciaire, c'est quelque chose qui est très très lourd. Et la question qu'on peut se poser, alors ce n'est pas le Patriot Act de George W. Bush après le 11 septembre, mais à certains égards, on est quand même dans une logique similaire. Et on peut se demander, si on fait la comparaison avec ce qu'avait été la réaction après Charlie, si le message que doit donner la France n'est pas celui d'un pays qui est légitimement implacable contre le terrorisme, qui va continuer les opérations en Syrie, qui va continuer à mener les opérations de police en France, mais qui dit, attention, il ne faut pas rentrer vers des mesures liberticides.
Bon, alors, je parlais de Churchill, vous parlez, Marc Sémo, de George W. Bush. Thierry Garcin, s'il fallait choisir de quel côté à pencher François Hollande cet après-midi, vous pencheriez duquel?
Je n'aurais pas tendance à personnaliser le discours, la déclaration devant le Congrès du président Hollande, parce qu'il s'agit quand même de la France. Alors, en plus, on est en période électorale, quoi qu'on dise, c'est interprété. Donc, je pense que, effectivement, c'est un discours qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire que d'une part il célèbre la France, alors ça caresse nos oreilles, mais je ne suis pas sûr que ce soit entendu comme cela dans un certain nombre d'autres civilisations, nous sommes une lumière pour l'humanité, et puis d'autre part, il fait toujours référence à l'universalisme. Alors l'universalisme, ça c'est peut-être quelque chose avec sur quoi on pourrait discuter avec Nicolas Dungan, mais il y a toujours eu dans l'histoire récente de votre pays, et beaucoup plus ancienne de la nôtre.
Quand vous dites votre pays, ce sont les
États-Unis. Hein. Une compétition en matière d'universalisme. Et quelqu'un l'avait très bien, que vous connaissez peut-être, l'avait très bien exploité ce thème. C'était Charles Cogan, qui connaît bien la France, et qui, dans certains livres, avait très bien montré comme soit il y avait une sorte d'auto-exaltation à toujours se mettre en avant et à représenter un modèle pour le monde. Alors, en revanche, Marc Sémo insiste sur quelque chose de très important, c'est qu'à plusieurs reprises, puisque le discours est vraiment, pour un observateur extérieur comme votre serviteur, le discours est quand même à des résonances néo-bouchistes, très clairement, et c'est presque une sorte, parfois, de copie conforme, montrer le chemin, c'est exactement l'expression qu'utilise le président Guzier, le président Bush. Eh bien, il y a des références, plusieurs références à l'état de droit. C'est mieux en le disant.
George Bush, on peut faire ce parallèle effectivement avec le discours qu'il avait prononcé devant le Congrès des États-Unis. C'était le 20 septembre 2001. Je voudrais juste vous en faire réécouter justement un extrait.
Les Américains ne doivent pas s'attendre à une seule bataille, mais à une longue campagne, sans précédent. Elle pourra comprendre des frappes spectaculaires, diffusées à la télévision, et des opérations secrètes, jusque dans leur succès. Nous allons priver les terroristes de financement, les dresser les uns contre les autres, les pourchasser d'un endroit à un autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de refuge ni de repos. Nous poursuivrons les nations qui assurent une aide ou un asile au terrorisme. Chaque pays, dans chaque région, doit maintenant prendre une décision. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes.
Voilà, extrait donc de ce discours de George W. Bush devant le Congrès des États-Unis le 20 septembre 2001, quelques jours après donc les attentats, bien entendu, du 11 septembre. Nicholas Dungan, est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande se retrouve dans une position assez similaire à celle qui était celle de Bush en 2001, position aussi de force, c'est-à-dire en capacité de pouvoir peut-être demander un soutien important à ses alliés parce qu'on est un pays qui vient d'être attaqué?
Effectivement, et ce discours de Bush était l'un des meilleurs discours qu'il ait jamais fait, et c'est l'un des meilleurs discours qu'on ait jamais entendu devant le Congrès américain. Le problème, c'est que par la suite, après que le monde avait titré « Nous sommes tous américains », en fait, on a gaspillé cette bonne volonté, cette sympathie et ce soutien dont je parlais, et qu'on a vu tout récemment, enfin pendant ce week-end, pour la France. Alors le risque, ce n'est pas, à mon avis, que la France fasse un excès de zèle d'universalisme, mais au contraire, qu'elle considère que sa place est... elle considère trop modestement sa place. Qu'elle sous-estime l'importance du vide de leadership qui existe aujourd'hui et de la place qu'il y a à prendre. Alors, pendant son discours, donc, si vous voulez, pour répondre directement à votre question, oui, mais d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il est possible aussi, cette fois-ci, de gaspiller la bonne volonté des alliés, mais si on le faisait, ça créerait un vide plutôt qu'une mauvaise décision, par exemple, d'envahir un pays tiers.
Voilà, si je vous comprends bien, ça veut dire que ce gaspillage du soutien international, il serait plutôt lié au fait que la France n'en ferait pas assez, exactement, n'assumerait pas suffisamment son rôle, plutôt que de l'assumer trop, comme le firent les États-Unis il y a une quinzaine d'années.
Et encore une fois, il me semble que le président Hollande a quand même quelques jours, il a trouvé sa voie de chef, il a trouvé sa voie, je suis bien d'accord, de chef de guerre, et c'est un rôle dans lequel, effectivement, il excelle. Il faut qu'il trouve la voie de la France et qu'il puisse parler à la nation et pour la nation, pour la patrie, et incarner les valeurs universelles dont on dit qu'elles ont été attaquées. On est bien d'accord qu'elles ont été attaquées. Alors, il a commencé par dire que le Charles de Gaulle va être mobilisé. Il faut une grande et unique coalition. Qu'il va voir Obama et Poutine, qu'il va demander une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU et que on va invoquer l'article 47 de l'Union européenne, etc. Donc c'est une série de mesures, mais où est la conception globale d'une nouvelle façon d'attaquer ce fléau qu'est le terrorisme? C'est ça qu'on attend, à mon avis, d'un leadership français.
Marc Sémont et Thierry Garcin, oui. François Hollande a une responsabilité devant le monde aujourd'hui à assumer une place peut-être plus importante que celle que la France assume depuis le début, en tout cas, de l'intervention en Syrie.
Disons, la France a quand même un rôle central. C'est d'abord un pays membre permanent du Conseil de sécurité et c'est aujourd'hui le pays qui, après les États-Unis, est le plus engagé dans la coalition contre Daesh. Tout ça est vrai. Ensuite, le problème, c'est que, oui, la France doit assumer son rôle. Elle le fait, elle a la solidarité de ses alliés. Il est possible qu'après, probable même, qu'après ces attentats, quelque chose se débloque, y compris au niveau du Conseil de sécurité, où jusqu'ici, tout avait été bloqué par l'attitude de la Russie, de Poutine, qui est le grand parrain du régime d'Assad. Mais le problème de la France, c'est que toute seule, elle est quand même bien faible. D'abord militairement, hein, le Georges Clemenceau va arriver sur zone, mais bon, ça fera 30 avions. Je voudrais juste rappeler le nombre des frappes en Irak. Depuis un an, il y a eu à peu près 7000 frappes américaines, maximum entre 250 et 300 frappes françaises. On est quand même assez marginaux.
La force symbolique des valeurs auxquelles la France est rattachée, ça ne suffit pas.
Voilà. Ensuite, oui, il évoque le leadership de cette coalition. Cette coalition, elle existe. Hein, 65 pays, dont une quinzaine, ont un rôle actif. Le problème, c'est dans cette coalition, chacun a son propre agenda vis-à-vis de la Syrie. L'agenda des Turcs n'est pas celui des Saoudiens, même si en partie ils se recoupent, et surtout pas celui de d'autres pays, et surtout pas celui des Américains, etc. Donc, je ne vois pas comment la France, quels que soient les mérites de François Hollande et de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, pouvoir réellement changer la donne là-dessus. Et juste pour finir, ce qui me frappe quand même, c'est que la France, qui avait mené une position, qui avait eu une position très ferme sur la Syrie, et à mon avis, juste, c'est-à-dire ni Daesh, ni Assad, considérant qu'Assad était en grande partie responsable de l'État islamique. La France, qui disait que Assad doit partir, que c'est la priorité, maintenant est en train de revenir dans le rang, derrière les autres, qui dit oui, éventuellement Assad partira, mais peut-être à la fin du processus de transition, et c'est un peu la chose qui est actuellement en train d'être discutée entre Poutine et Obama, et d'une certaine façon la France est en train de revenir en arrière. Elle a raison de rappeler que la lutte contre Daesh est la priorité, mais on voit que déjà sur Assad, elle est en train de mettre de l'eau dans son vin.
Thierry Garcin.
Alors une chose très importante, c'est quand même la relation de la France à ses alliés, et sur le plan juridique du droit international, il est tout à fait louable que le président Hollande ait renvoyé le dossier quand même en élargissant énormément cette coalition, une grande et unique coalition, je le cite, notamment implicitement la Russie, et donc c'est le Conseil de sécurité, c'est important parce
que... Donc vous n'y voyez pas une forme de faiblesse ?
Non, je pense que c'est une forme d'appel, et non pas du tout de faiblesse, d'appel, comment sera-t-il entendu ? Et d'autre part, à propos de ses alliés, évidemment chez nous, si j'ose dire, sur le continent européen, il fait référence à l'article 42.7 que j'ai lu évidemment depuis, qui est très court, qui est une clause d'assistance mutuelle en matière de défense tout à fait banale, mais qui il est intéressant de remarquer que cette clause dit que, évidemment, pour les pays membres de l'OTAN, elle le dit autrement, pour les pays membres de l'OTAN, évidemment, il faudra que les engagements soient conformes au système de défense collective de l'OTAN. Alors ça, c'est important. Le Conseil de sécurité et puis, d'autre part, les voisins européens. Et puis, il y a une chose qui me paraît positive, et c'est un point de vue tout à fait personnel, c'est que, Dieu merci, il n'a pas cité l'Alliance Atlantique. Parce que l'Alliance Atlantique a été utilisée en dépit du bon sens en Afghanistan, elle a été utilisée en Libye, ce qui nous a permis d'une certaine façon de violer la résolution de l'ONU 1973, nous Français et ainsi de suite. Donc je crois que moins il y aura d'Alliance Atlantique, et votre serviteur dans l'émission dont il a la charge, la veille ou l'avant-veille de la décision française de reconnaître l'opposition libyenne, etc., etc., avait dit, mais plaise à Dieu qu'on ne mette pas l'Alliance Atlantique dans un pays arabe, comme ça, et ça n'a pas manqué.
Nicolas Zengan.
Donc surtout pas d'Alliance Atlantique et article 5 de l'Alliance Atlantique.
Ah, on a reconnu derrière ça.
Voilà, c'est un vrai débat. Vraiment d'accord. Parce que je pense que c'était, à la lumière de l'histoire, une erreur, effectivement, de voter l'article 5. Donc la solidarité totale, une attaque contre l'un des membres de l'OTAN est une attaque contre tous les membres de l'OTAN, au lendemain du 11 septembre. Parce que effectivement, cela a conduit à des excès et cela a conduit aussi à un sens d'unité qui n'était peut-être pas unanime. Par contre, l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire l'OTAN, existe. Et donc, on n'a pas à l'éliminer, on n'a pas à la négliger. Elle est là, mais on n'a pas à la renforcer en évoquant l'article 5.
Surtout, si vous me permettez de vous interrompre, quand c'est vu des sociétés arabes ou musulmanes, parce que nous avons une vision otanesque de l'Alliance qui n'est pas du tout partagée, et ça a des allures de croisade.
Non, mais oui. De toute façon, l'OTAN se cherche depuis longtemps. Pour savoir quel doit être son rôle après la mondialisation, après la fin du communisme, et après plus de 25 ans, elle n'a pas encore répondu à cette question.
Soyons un peu sérieux. S'il y a une opération en Syrie, d'une manière ou d'une autre, évidemment que l'OTAN aura un rôle essentiel.
Alors,
non pas exclusif, on l'avait déjà vu en Libye. L'idée est à chaque fois de faire rentrer dans la coalition le maximum de pays arabo-musulmans. S'il y a pour appuyer un processus de transition politique en Syrie, une opération au sol qui seule permettrait à la fois de permettre une véritable transition en Syrie et des élections, et qui seule permettrait d'éradiquer l'État islamique, il est évident que l'opération au sol sera le fait, ce qui ne va pas être simple, d'armées de pays arabes. On ne voit pas très bien d'ailleurs qui, parce que c'est des armées prétoriennes qui sont pour toute la répression en interne et qui ne sont pas habituées à se projeter à l'extérieur. Mais en tout cas, la logistique derrière, notamment au travers de la Turquie, un pays qui a 900 km de frontière avec la Syrie et qui est le pilier du flanc sud-est de l'OTAN, la logistique fondamentale sera celle de l'OTAN. Donc il ne sert à rien là-dessus, on habillera la chose pour que ça n'ait pas l'air, et à raison d'ailleurs, d'une croisade, mais de fait l'OTAN reste aujourd'hui l'alliance militaire la plus opérationnelle qui soit au monde.
Je voudrais revenir un instant sur ce que disait Nicolas Dungan tout à l'heure, sur cette fenêtre de tir, et sans doute pas la bonne formulation, mais enfin en tout cas, sur ces quelques jours qui pourraient permettre en tout cas à la France de capitaliser par rapport à ses importants soutiens internationaux. C'est vrai que depuis de longs mois, voire plusieurs années, la France, Thierry Garcin, s'est singularisée par une approche qui était différente de celle de ses alliés. Je pense à la question de l'Iran, où la France n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, y compris que les États-Unis. Et puis sur la Syrie, par exemple, quand la France reconnaît la première, l'opposition syrienne, elle se singularise. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire aussi que la France paye aussi peut-être, d'une certaine manière, cette singularité. C'est-à-dire, quand on se singularise, on est beaucoup plus visible, finalement. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, elle en paye un peu le prix ?
Alors, il est certain que le prix que nous payons, il est essentiellement dû, quand même, aux conséquences de la dévastation de l'Irak en 2003 par les États-Unis et du vide, de la vacance de l'État irakien, de la guerre civile en Irak, du fait d'avoir choisi, évidemment, les chiites, et ainsi de suite, et d'avoir laissé en état de lévitation politique le nord de l'Irak, c'est-à-dire la partie kurde. Il y a bien d'autres facteurs qui expliquent évidemment comment et pourquoi les Occidentaux globalement sont aussi détestés dans cette région. Alors, je m'étais risqué à une phrase qui n'est pas très aimable, mais pour la politique étrangère française, il y a peut-être 6 mois ou 1 an, c'est qu'on ne peut pas être plus américain que les Américains dans le dossier israélo-palestinien, plus américain que les Américains dans le dossier syrien et plus américain que les Américains dans le dossier iranien. Il y a un moment donné, ça ne fait pas une politique.
Si je vous ai posé la question, Thierry Garcin, c'est pas tout à fait innocent, c'est parce qu'aujourd'hui, sur le site de Libération.fr, que vous connaissez bien, Marc Semeau, il y avait une tribune de Jean-François Bayard, alors qui est aujourd'hui professeur à l'IHEID, c'est l'Institut des Hautes Études Internationales et de Développement, qui se trouve à Genève. Tribune intitulée « Le retour du boomerang », voilà, je vais y arriver, et qui considère que le désastre que nous vivons est le fruit vénéneux d'un enchaînement d'erreurs que nous avons commises depuis au moins les années 70. On l'a appelé dans le courant de l'après-midi, il explique un petit peu le fond de sa pensée.
La France, ces dernières décennies, a commis plusieurs erreurs de politique étrangère. C'est d'abord le non-traitement de la question palestinienne qui a laissé s'installer un sentiment de deux poids, deux mesures dans l'opinion musulmane ou arabe. Ensuite, c'est le partenariat privilégié pour des raisons mercantiles avec les pétromonarchies qui naturellement nous achètent beaucoup de choses, mais nous avons fermé les yeux sur leur propagande salafiste et sur leur appui au fondamentalisme. La Turquie, dont nous voyons aujourd'hui à quel point nous avons besoin d'elle, a été snobée, maltraitée. On se souvient du refus de toute perspective d'adhésion. Nous avons fait de l'Iran une espèce d'obsession sécuritaire en appuyant Saddam Hussein dans sa guerre d'agression dans les années 1980. Ensuite, en traitant de manière très univoque et très maladroite le difficile problème de la question nucléaire. Et ce faisant, nous nous sommes privés de tout moyen de discussion avec l'Iran sur des dossiers dans lesquels il a une bonne partie de la solution, comme par exemple le Liban ou la Syrie. Donc nous avons fait énormément d'erreurs qui aujourd'hui biaisent notre jeu, nous paralysent et qui ont contribué d'une certaine manière à nourrir la bête épouvantable à laquelle nous sommes confrontés.
Marc Semeau, vous partagez cette analyse de Jean-François Bayard ?
En partie, une grande partie des erreurs que cite Jean-François Bayard sont justes. Ensuite, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, que l'émergence de Daesh est quand même de façon assez lointaine liée à ces erreurs.
Oui, mais le fait que Daesh vise la France et considère que la France, puisque ça fait partie du communiqué de revendication hein, des attentats, la France et Paris en particulier comme capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, elle met quand même la France justement en position de, enfin totalement sur le devant.
Mais ça, c'est pas lié aux erreurs que cite Jean-François Bayard. C'est d'abord le symbole que représente la France, justement la raison même de ce prestige international de la France, pays de la révolution, de la laïcité, pays où le droit au blasphème est reconnu. Et effectivement, tout ce que peut haïr au maximum des djihadistes. Autre point, la France est le pays, et notamment avec François Hollande, et on peut lui rendre hommage, qui s'est le plus engagé c'est depuis son élection, dans la lutte contre le terrorisme. On l'a vu au Mali, on l'a vu dans d'autres pays du Sahel, on l'avait vu avant avec Sarkozy en Libye, etc. Donc pour toutes ces raisons, la France est un pays en première ligne, et à la différence des États-Unis, c'est un pays accessible.
À condition de considérer que ces engagements ont porté leurs fruits, ou en tout cas.
Non, mais c'est un pays accessible, en ce sens que c'est très difficile d'introduire un commando aux États-Unis. L'Europe, en général, représente un territoire beaucoup plus accessible aux djihadistes, et c'est la raison pour laquelle, si on croise ces trois éléments, la France, aujourd'hui, est le pays qui a été frappé.
Nicolas Zengen.
Oui, je pense qu'effectivement, si la France a fait des erreurs, je dois reconnaître que, malheureusement, les États-Unis, on en fait beaucoup plus. Il y a eu un article dans le Washington Post hier selon lequel la plupart des officiers qui commandent au sein de Daesh sont des anciens officiers, des anciens généraux et des colonels de Saddam Hussein et qui ne font pas le combat mais qu'ils gèrent le combat.
Et qui n'avait pas été gardé justement dans l'armée irakienne suite à l'intervention.
Parce que Jerry Bremer a dissous l'armée irakienne, contrairement à ce que on avait fait, par exemple, avec MacArthur au Japon.
Alors, donc vous diriez finalement, Nicolas Dengan, que la France paye d'abord les erreurs des États-Unis ?
Non, moi je pense que honnêtement, alors vous allez me dire que c'est trop facile et c'est une réponse trop politique. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître les erreurs du passé, mais pas passer du temps à se blâmer mutuellement et essayer de voir plus loin. Alors, plus américain que les Américains, je voudrais revenir là-dessus parce que je sais de sources internes lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, il y avait une inquiétude stratégique en France qui était que Dick Cheney contrôlait beaucoup trop la politique étrangère des États-Unis et que les États-Unis pourraient, entre guillemets, autoriser une frappe israélienne ou faire une frappe en Iran. Et que c'est pour cette raison que Sarkozy a adopté un ton plus dur en disant c'est la bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran, etc. Parce que à partir du moment où les Français ont une position encore plus dure que celle des Américains, il faut composer avec les Français. On peut pas dire que ce sont des gens qui nous ont pas suivis en Irak, etc. Et d'ailleurs, on l'a revu, comme vous l'avez cité, quand Fabius a prolongé les négociations iraniennes, alors que Kerry et Bush disaient « mais le Congrès va rentrer, on veut signer, etc., etc., on veut finir avec ça ». Donc, en fait, cette dureté française, pour moi, c'est moins bushiste, c'est moins plus américain que les Américains. Pour moi, ça s'inscrit dans la droite lignée de la politique étrangère française qui existe depuis le gouvernement provisoire de la République française, c'est-à-dire la recherche de l'indépendance nationale et un pouvoir décisionnel qui est totalement français.
Vous voyez la même continuité, Thierry Garcin ?
Oui, il y a une chose qui est quand même relativement inquiétante, et ça traverse les familles politiques, il faut bien le dire en plus en période électorale, ce n'est pas une question de droite ou de gauche ou de gouvernement de telle ou telle couleur. Mais enfin, depuis quelques années quand même, exactement depuis 1999, la France s'applique à violer le droit international en faisant donner au Kosovo contre la Serbie en 1999 l'Alliance Atlantique en compagnie de deux autres membres permanents, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et il y a eu l'affaire évidemment de Libye dont on vient de parler. Je ne suis pas sûr que la France conforte, et ça ce n'est pas une question politique, conforte en cas de réforme un jour, hein, c'est pas du tout d'actualité, son siège permanent de cette façon-là. Et je crois que ça c'est une faiblesse de la France parce que très souvent maintenant, un certain nombre de décisions sont prises sous le coup de l'émotion. Les conseillers humanitaires, on va dire, raflent la mise et le résultat c'est qu'on a une politique qui n'est pas dans la durée, et comme on a dit, je ne sais pas qui l'a dit, l'humanitaire beauté ne suffit pas.
Mais c'est sous le coup de l'émotion ou c'est le poids d'une doctrine de politique étrangère qui serait particulièrement forte?
Non, je crois que c'est une question de génération d'ailleurs.
En plus, la politique française, François Bayard citait comme quelque chose de parfaitement cohérent et suivi depuis 40 ans, ce n'est pas vrai. Il y a eu plusieurs politiques étrangères françaises. Et encore maintenant, la politique étrangère française, le Quai d'Orsay, est divisée en ce qu'on a schématiquement, c'est défini comme d'un côté le gaullo-mitterrandisme, hein, dont Hubert Védrine était la plus brillante expression, et de l'autre des tendances néoconservateurs, donc néoconservatrices qui existent réellement. Ensuite, ce qui me paraît intéressant, c'est d'une certaine façon l'élément de rupture qu'a été François Hollande. Alors, pour faire de la provocation, on peut dire, on peut même se demander s'il n'y a pas un côté Guy Mollet chez François Hollande. Je m'explique. C'est peut-être, de tous les présidents de la Ve République, celui qui est le plus naturellement, sans complexe, pro-américain. Sarkozy était néoconservateur. Hollande a un rapport apaisé avec les États-Unis au point qu'il était prêt à entrer en guerre à propos après l'utilisation par Damas des armes chimiques contre sa population, seul aux côtés des Américains, du jamais vu depuis la guerre en 1815 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. On était alliés. Ensuite, la conception de l'Empire. Hein, c'est quand même significatif que François Hollande ait eu cette phrase extraordinaire après la libération de Tombouctou, des djihadistes, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Cette espèce de rapport naturel à ce qui a été l'ex-Empire, et quelque chose que, par exemple, n'avait pas Sarkozy. Ensuite, il y a un côté quand même aussi assez fort chez Hollande, pro-israélien. Hein, je rappellerai simplement que quand il s'est agi de voter à l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'acceptation de la Palestine comme État non membre, État observateur, le Quai d'Orsay avait défendu la position française, qui était celle de oui. L'Élysée, pendant 10 jours, a bétonné sur une abstention, comme l'Allemagne.
Mais Marcel Mauss, tous ces éléments-là, vous les retrouvez dans la façon dont François Hollande réagit et répond aujourd'hui à ces attaques terroristes ?
En partie, oui. Mais c'est pas nécessairement une critique. Hein. Cette politique socialiste de la 4ème République n'était pas nécessairement surtout catastrophique. Et je pense que sur certaines choses, Hollande a parfaitement raison. Mais c'est un constat.
Je pense que ces analyses sont très intéressantes. Et éclaircissent beaucoup de choses. Mais pour moi, la question fondamentale, c'est que la France dispose aujourd'hui probablement de la soft power la plus grande de tout pays du monde. Et dispose d'une, malgré le fait que elle ait agi sans une couverture suffisante à quelques instants du droit international. Néanmoins, par exemple, quand on fait le contraste entre l'opération Serval au Mali et les opérations américaines en Irak, il n'y a pas de plus grand contraste en termes d'acceptation par le pouvoir local, de
les préparation
et les opinions publiques.
Et parce que nous avons peu de moyens aussi. De l'ONU. Nous sommes avantagés parce que nous avons peu de moyens, nous sommes obligés
de faire. Mais c'est-à-dire que, je voudrais revenir justement sur ce,
facile,
sur
Mali,
ce,
hein,
sur ce peu de moyens. Moi, je pense, je constate, et c'est l'un des thèmes d'ailleurs, enfin le thème central de Why France Matters, c'est que...
Et donc le livre que vous allez bientôt publier.
C'est ça, et le cours que j'enseigne actuellement à Sciences Po du même nom. C'est-à-dire que la France dispose de tout ce qui est sa culture, son histoire, etc. Du fait, on l'a vu depuis vendredi soir, d'être un pays très organisé en interne, beaucoup plus que les États-Unis... Même que la Grande-Bretagne, en termes de pouvoir constitutionnel, de mise en œuvre rapide, c'est industriellement, la France jouit de grandes multinationales dans presque toutes les grandes industries du XXIe siècle, et sa place dans le monde est quand même très large. Il ne se passe rien en Europe sans la France. La France ne peut pas tout seul, mais il ne peut rien se passer au niveau de l'Union européenne sans la France. Et donc, il s'agit pour moi de voir comment dans les prochains jours, François Hollande, le gouvernement, le peuple français prennent conscience ou pas de cette énorme légitimité qui leur est conférée et de voir si on ne peut pas tirer de ces événements tragiques une opportunité de changer le monde comme la France a, à certaines époques, changé l'histoire et changé le monde.
Il faut tout de même que ce soit un Américain qui nous réconforte sur ce qu'est la place de la France dans le monde. Thierry Garcia.
Alors, je vais jouer juste les Cassandres. Vous avez entièrement raison. Et c'est une occasion extraordinaire. Mais je voudrais simplement rappeler, janvier, Charlie, la manifestation, les 100 chefs d'État et de gouvernement dans les rues de Paris, du jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé après en politique internationale ? Qu'est-ce que la France a fait d'une solidarité qui, à l'époque, était
Charlie
au moins...
Charlie était une cible différente.
Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais la solidarité qui avait été exprimée, à l'époque, par le monde, était au moins équivalente
c'est
à celle
pour
d'aujourd'hui.
Ça que je suis et
nous n'en avons rien fait.
Inquiet qu'il y ait un gaspillage de cette opportunité.
Alors, le président cet après-midi a dit une phrase, je le cite textuellement, « Le monde entier est solidaire ». C'est sans doute un vœu pieux, mais en tout cas, il y a un appel du pied, il y a un besoin d'être aidé. Il y a une chose qu'il faut ne pas minimiser, quoi que fasse la France dans les mois à venir, dans ce domaine, à l'égard de... C'est que les autres Européens, sont bien les membres de l'Union européenne sont bien contents que la France aille au Mali, que la France aille à droite et à gauche dans la coalition en Irak, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois que nous intervenons dans des opérations extérieures, les pays européens nous regardent du balcon, mais sont très contents qu'on fasse le sale boulot et avec des risques importants pour nos hommes et nos intérêts.
Y compris la Grande-Bretagne aujourd'hui qui n'y est pas.
Qui n'est pas
en Syrie.
Et le Canada, nous n'avons rien contre le Canada. Le Canada a décidé d'ici à la fin de l'année de retirer ses avions de la coalition en question.
Donc la France aurait aussi intérêt à profiter de cette période pour mutualiser davantage l'effort de guerre, disons.
Ah bah, de toute façon, personnellement, je ne pense pas du tout que le mot de guerre soit adapté parce que on ne se bat pas.
Dieu sait qu'il est employé depuis 3 jours.
Enfin, oui, mais justement, il faudrait peut-être le démonter un peu. Et c'est une stratégie directe qu'on va adopter contre quelqu'un qui a une stratégie indirecte. Le terrorisme, c'est une forme de guérilla urbaine et les moyens ne sont pas adaptés. On n'a pas les moyens d'ailleurs en France et on ne pourra rien faire sans les autres, bien entendu.
Justement, poser la question ce soir, quel message François Hollande doit-il adresser au monde ou quel message la France doit-elle adresser au monde tant sous la Ve République, en tout cas, le président de la République incarne la politique étrangère de la France. Est-ce que ce message, ça doit être de dire que la France est en guerre, Nicolas Zengen?
C'est un début de message. Et il faut, même si le message est exagéré, il faut le dire avec force. Et surtout si on est François Hollande. Il faut que la politique interne, même en période électorale, et la politique externe soient cohérentes. Parce qu'il n'y a plus de division entre les deux. Moi, j'ai été très choqué par les propos de Nicolas Sarkozy, dont je trouvais que sur le perron de l'Élysée, après s'être entretenu avec le président de la République pendant 1 heure dans les circonstances actuelles, j'ai trouvé que les propos de Sarkozy étaient quasi électoraux et assez peu respectueux. Je pense qu'il faut que François Hollande affirme son autorité nationale et internationale. Je ne dis pas qu'ils doivent dissoudre l'Assemblée nationale ou autre chose de ce genre, mais je voudrais voir émerger une politique cohérente qui montre la légitimité et la force de la France dans le monde.
Vous avez évoqué le terme d'autorité. Bah, figurez-vous que c'est justement autour de ce terme que nous réfléchirons demain à partir de 18h20 dans Du Grand Mood, puisque la question que nous poserons sera « Sommes-nous demandeurs de toujours plus d'autorité ?» Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Nicolas Zengen, Marc Semo et Thierry Garcin. Thierry Garcin, demain matin, les enjeux internationaux, ce sera...
Ce sera à propos du G20 qui vient de se clore ce soir, et donc la question climatique, et d'ailleurs le rôle des États-Unis et de la Chine, puisque ce sont les deux plus grands pollueurs de la planète.
Merci beaucoup Thierry. Un grand merci à toute l'équipe du Grand, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Mathilde Barbier, Nafsika Papanikolaou. Émission réalisée par Anne Kobilac avec à la prise de son ce soir Clément Daté. Tout de suite à 19h, on retrouve Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.